Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Nicolas Benita.
Bonjour à toutes et à tous. En cette nouvelle année 2017, que je vous souhaite une fois de plus excellente, voici également la nouvelle rentrée littéraire de janvier, avec la publication de 517 livres, romans et essais. Et parmi ces nombreux titres, un texte en particulier résonne avec l'actualité, celui de l'écrivain Salim Bachy intitulé « Dieu, Allah, moi et les autres » aux éditions Gallimard. En effet, il y a 2 ans, presque jour pour jour, le 7 janvier 2015, il y a eu le choc, la tragédie de Charlie Hebdo, l'assassinat de plusieurs dessinateurs et journalistes suivi d'une prise d'otage violente dans un hypercachère. À l'heure du souvenir, ce livre propose une réflexion sur la religion et le terrorisme. Ce n'est pas la première fois que l'auteur né en Algérie s'intéresse à cette question. Dans « Tuer les tous », Salim Bachy déjà écrivait un roman sur le 11 septembre. Mais là, ce n'est plus de la fiction, c'est la réalité d'un citoyen, d'un écrivain. Rencontre. Bonjour Salim Bachy.
Bonjour Catherine.
Votre nouveau livre est un récit autobiographique où vous racontez votre enfance en Algérie, votre vie d'écrivain plus tard en France, en passant par vos amours, vos voyages. Mais ici, c'est aussi votre propre relation à la religion que vous disséquez, celle qui vous a été transmise par vos ancêtres, votre pays, votre culture, votre éducation, et dont vous vous libérez ici, publiquement, avec ce livre. Est-ce que cette mise à distance est devenue nécessaire pour vous au regard des événements tragiques qui ont meurtri la France depuis 2 ans particulièrement ?
Je ne sais pas si ce sont vraiment les événements et les attentats terroristes qui ont touché la France depuis 2 ans qui m'ont poussé à écrire ce livre. Je crois que ce qui a plus déclenché le livre, bien sûr, il y a un côté comme ça colère contre ce qui se passe en ce moment, mais il y a aussi cette idée que qu'arrivé à mon âge, à 45 ans, après avoir écrit beaucoup de livres aussi, après avoir parlé du terrorisme, il était peut-être nécessaire à la fois de mettre des mots sur ce qu'avait été mon travail d'écrivain sur ce sujet qui est très très sensible jusqu'à présent, et aussi une nécessité pour moi plus intime en fait de retenir ce qu'avait été ma vie en Algérie quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, et ne pas laisser passer ça comme ça. Voilà.
Alors effectivement, si ce qui s'est passé il y a 2 ans, les événements tragiques qui ont touché la rédaction du magazine Charlie Hebdo, dont plusieurs dessinateurs ont été tués précisément parce qu'ils étaient aussi caricaturistes et caricaturistes d'Allah. Ça, c'est une question que vous abordez. Alors, si c'est pas cet événement, en effet, qui a été un déclencheur, comment est-ce que vous l'avez vécu, Salim Bachy?
En fait, ce que je voulais faire, effectivement, il y a une colère comme ça par rapport à ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, avec ce massacre, ce qui est un massacre, hein. Faut dire les mots.
Et puis, sans parler de ce qui s'est passé après au Bataclan.
Oui, au Bataclan et tout ça. Mais c'est vrai que ça a été choquant, le massacre de Charlie Hebdo, parce qu'il y a vraiment une volonté d'annihilation comme ça de toute une école de caricaturistes, d'une manière de penser, d'une liberté de penser aussi. Effectivement, le Bataclan, ça a été horrible aussi. Je sais pas pour minimiser les choses, mais ce que ça m'a fait cet événement tragique, c'est que ça m'a fait revenir justement à l'Algérie des années 90, à l'Algérie où on assassinait des journalistes, où on assassinait des caricaturistes aussi. Saïd Mekbel, par exemple, qui était un polémiste, a été assassiné. Et donc ça m'a un peu ramené comme ça à une époque que je croyais complètement éloignée de moi, en fait, et que je pensais ne plus jamais avoir à revivre. Eh bien, ces événements l'ont fait revenir comme ça.
Et de fait, Salim Bachy, ce livre intitulé avec beaucoup d'humour et une forme de provocation d'ailleurs, Dieu, Allah, moi et les autres, est-ce que c'est un livre de libération ou c'est aussi un livre de revendication d'avoir le droit d'être athée ?
Oh, je crois que c'est... Oui, bien sûr. Peut-être que je ne l'ai jamais dit ouvertement, mais ça me semblait presque naturel. En fait, moi, j'ai jamais eu l'impression de me considérer comme quelqu'un de profondément religieux ou de profondément croyant, plutôt. Peut-être que la littérature a à voir avec quelque chose de la spiritualité, d'une certaine manière, en fait. On peut pas écrire si on n'a pas... Il n'y a pas une dimension comme ça, un peu de transcendance. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais été un véritable croyant. Je n'ai jamais été un véritable musulman, si on doit poser les choses clairement. Et peut-être qu'il était, il était peut-être temps de le dire dans un livre, alors que ça pouvait ne pas paraître évident pour certaines personnes. Ouais.
On va rentrer dans les premiers chapitres de ce récit avec vous, Salim Bachi, où vous racontez à travers vos jeunes années scolaires, dans les années 70, en Algérie, des scènes de classe qui sont douloureuses à lire, mais qui ont été certainement beaucoup plus douloureuses à vivre, parce qu'on voit à quel point l'enseignement est pesant, culpabilisant, frustrant. C'est vraiment une transmission de la religion qui ne se fait pas dans la gaieté, mais qui se fait plutôt sous une forme de terreur. Et pourtant, vous dites que vous croyez en Dieu, mais pas en Allah. Alors, quelle est la nuance exactement ?
En fait, la croyance, pour moi, c'est quelque chose d'enfantin, en fait. Quand on trouve des croyances sincères, ils ont quelque chose comme ça de l'enfance, une espèce de béatitude enfantine qui est très, très touchante, en fait. Et je crois que quand on est un enfant, on croit. On croit forcément parce que, à moins qu'on vous dise, non, écoute, le Père Noël n'existe pas, donc t'as pas besoin d'y croire. Mais en général, un enfant a plutôt tendance à croire ce qu'on lui dit, et c'est plutôt touchant et beau, quoi. Et ça, pour moi, c'est ça le rapport à Dieu, le rapport le plus sincère et le plus intéressant. Mais il y a aussi ce qui se greffer dans cette enfance-là et par l'environnement, par l'école, c'est que ce Dieu-là était pas si sympathique que ça, parce que il fallait obéir à des choses, il fallait faire des règles, on était obligé de faire attention, de bien dire le Coran, de bien le réciter, sinon on recevait des coups sur les doigts,
il fallait sur la tête, il y avait une forme de violence quand même exercée envers les enfants.
Bien sûr, c'est une violence terrible qui était exercée à l'école algérienne de l'époque, et je sais pas si ça se passe encore maintenant, mais c'est cette violence-là qui fait que, d'une certaine manière, j'ai commencé à un moment à me dire, mais ce Dieu qui est plutôt sympathique, ce Dieu enfantin, amusant, cette croyance que l'on est peut-être immortel, ça c'est très très bien. Mais en même temps, si on doit sacrifier sa liberté, si on doit sacrifier sa jeunesse, si on doit sacrifier ses rêves pour obéir à ce Dieu-là, à un moment, on commence à faire une espèce de distinction. Et c'est là où j'ai voulu, par une manière de pirouette ironique, dire que Dieu existait, mais peut-être qu'Allah était quelque chose d'un peu superflu, oui.
D'autant plus que vos parents n'étaient pas particulièrement pratiquants.
Non, ils n'étaient pas pratiquants. Et même mes grands-parents qui étaient pratiquants et qui faisaient la prière ne m'ont jamais obligé à quoi que ce soit. Et c'est en cela que c'est dramatique ce qui s'est passé en Algérie. Parce que je pense qu'au sein des familles, l'islam était vécu comme quelque chose d'assez naturel et de peu contraignant. Mais c'est le système vraiment éducatif, le système politique qui ont fait de l'islam un problème en Algérie.
Une éducation scolaire, donc, on l'entend, vécue dans la souffrance, qui vous a peut-être conduit à une forme de repli sur vous-même. Mais il y a aussi une souffrance physique dont il faut parler, parce que vous êtes atteint de drépanocytose, qui est une maladie génétique, dont votre petite sœur est morte à l'âge de 6 ans, et dont les crises violentes vous conduisent régulièrement à l'hôpital. Est-ce que cette autre douleur a été aussi pour vous un point de rupture dans votre vision du monde et de l'existence d'un Dieu, Salim Bachi?
Oui, bien sûr que la mort de ma sœur a joué dans cette espèce de rejet de la religion que j'ai eue et puis de Dieu, en fait, et qui a été un peu confirmé par mes lectures ultérieures de Dostoïevski ou de gens comme ça. Et c'est vrai que on peut pas comprendre, mais il y aura toujours des théologiens pour vous dire le contraire, mais on peut pas comprendre la souffrance d'un innocent ou d'un enfant et la mort d'un enfant. Et c'est en ce sens-là que les actes terroristes, à un moment, quand même, deviennent très, très problématiques pour, soi-disant, des croyants. C'est qu'on peut pas comprendre qu'un innocent paye pour quoi que ce soit, en fait, pour que ce soit une maladie, que ce soit une politique guerrière, quoi. Donc on est désarmé devant la mort ou la souffrance d'un enfant, donc et on peut pas le justifier. On peut pas le justifier, ni politiquement, ni religieusement, ni quoi que ce soit. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous faire des pirouettes, qui vont vous dire c'est très bien de bombarder un pays, comme ça on sauve, bah tant pis, des victimes collatérales, ou c'est très bien de foutre une bombe au milieu d'une foule, il y a des enfants, tant pis, ils seront bien accueillis au paradis. Bah non, c'est pas si simple, on se débarrasse pas comme ça de l'innocence, voilà.
Et est-ce que la maladie, vous, à titre personnel, vous a donné aussi cette distance?
C'est-à-dire que la maladie, c'est on peut se réfugier effectivement dans la religion et se dire bon qu'on est un corps souffrant et que tout ça passera, et on peut aussi se révolter en se disant non, bah écoutez, c'est injuste et je n'aurais pas à souffrir de ça, et c'est complètement absurde, hein. Donc moi j'ai plutôt pris la seconde option, oui.
ce qui vous a conduit aussi à l'amour des livres.
Oui, forcément, parce que du coup, je me suis retrouvé par rapport à mes camarades quand j'étais petit, un peu plus à l'écart, parce qu'il fallait me protéger, il fallait faire attention. Et donc, je me suis retrouvé beaucoup plus seul et les livres m'ont accompagné pendant dans cette solitude, oui.
Littérature sans frontières.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Salim Bashi avec qui nous parlons de ce récit intitulé « Dieu, Allah, moi et les autres ». On continue donc avec vous cette exploration à la fois personnelle, littéraire et politique. Et après des études brillantes que vous avez poursuivies en France, vous êtes donc devenu écrivain avec un premier roman très remarqué, Le chien d'Ulysse. Mais ce que vous nous racontez pas exactement, Salim Bashi, c'est qu'est-ce qui vous a poussé exactement dans cette voie littéraire?
En fait, vraiment, j'ai voulu devenir écrivain parce que j'aimais lire et parce que j'aimais les écrivains et que pour moi, c'était un peu parvenir à quelque chose de... Enfin, c'était l'inaccessible. Pour moi, l'inaccessible étoile, en fait, devenir écrivain. Et j'ai... Et tout mon parcours, l'histoire a fait, l'histoire de l'Algérie, l'histoire récente de l'Algérie, le terrorisme et tout ça, la guerre civile, ont fait que ça participe de ma création littéraire maintenant. Mais à l'origine, je voulais juste être écrivain. Il n'y a pas de... C'était peut-être la peur de la mort aussi, peut-être la peur de l'absurde de la vie, de disparaître sans rien laisser, qui m'a conduit à écrire aussi.
Témoigner au risque d'enflammer les esprits fâcheux.
Oh, mais ça, de toute façon, on fera jamais l'unanimité, ou alors c'est suspect, en fait. Moi, j'écris des livres parce que justement, je suis libre, et parce que je veux que mes livres, d'une certaine manière, témoignent d'une certaine liberté. Après, oui, les fâcheux sont partout, effectivement.
Oui, bien sûr, vous avez raison, Salim Bashi, mais si je dis ça, c'est parce que ici, vous exprimez très librement vos critiques envers les islamistes, vous parlez sans détour de sexualité, des différentes petites amies que vous avez eues, vous parlez, par exemple, aussi de la Syrie, que vous avez connue avant et qui aujourd'hui est martyrisé, comme on le sait, par des extrémistes. Est-ce que d'une certaine façon, avec ce livre, vous prenez des risques, voire vous vous mettez en danger en abordant des sujets tabous?
Mais j'ai toujours abordé des sujets tabous.
Oui, c'est vrai. Mais avec l'air du temps...
Ça devient peut-être de plus en plus difficile, ouais. Effectivement. Mais il me semble que j'ai toujours abordé des sujets tabous. D'ailleurs, le chien d'Ulysse, qui était mon premier roman, a été interdit en Algérie pendant de nombreuses années, hein, vraiment pendant quasiment une décennie. Et parce que je disais tout simplement que les militaires et les islamistes se valaient d'une certaine manière. Et ça m'a justement valu beaucoup de problèmes en Algérie. Et je parlais du terrorisme alors qu'on n'en parlait pas encore en France, et ça a pas mal dérangé aussi ici. Donc il me semble pas que j'ai eu ma langue dans ma poche ni que j'ai ou ma plume dans ma poche, en fait. Et effectivement, là, la différence du roman, c'est que c'est moi. Donc là, peut-être ça peut encore déranger plus. Oui,
oui, parce que là, c'est en votre nom.
Voilà,
vous dites c'est dangereux d'écrire ça.
Bien sûr que c'est dangereux, je suis pas naïf. Oui,
vous avez été menacé?
Non, pas du tout, mais je sais que c'est dangereux. Je suis pas naïf. Non.
Donc vous le faites quand même. C'est une forme de courage.
Ou
c'est une
forme
d'honnêteté intellectuelle, ne pas s'empêcher de dire ce qu'on pense.
Je suis pas quelqu'un de courageux, je suis pas quelqu'un de physiquement non, je dis juste ce que je suis et puis je peux pas tricher avec ça et j'ai pas envie de tricher avec ça.
On n'a pas encore parlé de littérature et pourtant Dieu sait qu'elle est importante tout au long du récit. Tous ces écrivains qui vous ont nourri, que vous aimez, que ce soit Joyce, que ce soit Balzac, Dostoïevski, Tchekhov, Malraux, et peut-être avant tout Camus, Albert Camus, c'est celui qui est en haut de la pile.
Ah, en haut de la pile, c'est Joyce quand même, mais je vais vous faire plaisir, parce qu'on est en France, je vais dire que c'est Camus.
Non,
mais...
non, ne me faites surtout pas plaisir. Ne me faites surtout
pas
plaisir.
Pour moi, c'est Joyce, oui, c'est en haut de la pile, c'est Joyce, Faulkner, ce sont les modernistes, oui, c'est Joyce.
Parce que paradoxalement, vous parlez beaucoup plus d'Albert Camus
Parce qu'il est plus simple d'en parler, effectivement, Albert Camus, parce que j'écris un roman sur Albert Camus, ce qui n'est pas le cas de Joyce. J'aurais aimé écrire quelque chose sur Joyce et je voulais le faire. Et puis c'est un auteur beaucoup plus exigeant, beaucoup plus difficile, et il est difficile d'en parler. Donc il mériterait à lui tout seul presque un livre, James Joyce. Mais pour moi, ça a été l'évidence que Ulysse a été, et d'ailleurs c'est pas pour rien que mon premier roman s'appelle Le chien d'Ulysse, hein, a été quand même quelque chose de primordial dans ma formation d'écrivain. Oui.
C'est pour ça que vous êtes allé en Irlande.
C'est-à-dire que je suis allé en Irlande
pour enseigner sur les traces de James Joyce.
Un peu, non, mais je me suis retrouvé un peu par hasard en Irlande parce que je voulais travailler à l'époque et je voulais travailler à l'Alliance française. Et je me suis trouvé un peu par hasard à Cork, pas Dublin, mais je me suis dit bon, bah c'est peut-être une forme, un signe du destin aussi. Donc j'ai accepté ça avec une forme de plaisir.
Et pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit vos meilleures années.
Non, ce ne fut pas
une
partie de plaisir.
Et pourquoi d'ailleurs? À cause du temps?
À cause du temps, à cause des gens. Peut-être me suis pas senti très bien en Irlande, mais j'ai du mal à me sentir très bien quelque part.
Alors, vous vous sentez où bien? Parce que vous-même, on a l'impression que vous réfutez l'identité d'Algérien, d'Arabe, de musulman. Donc c'est quoi l'identité?
Je les réfute, mais ne les nie pas. Je ne nie pas que je suis le produit d'une histoire, que je suis arabe quelque part, que je suis musulman quand il s'agit d'aimer les textes d'Omar Khayyam ou de lire Ibn Sina ou de visiter l'Alhambra. Pour moi, ça c'est être musulman et c'est quelque chose dont je suis fier. Je suis pas fier de ce qui se passe au nom de l'islam en ce moment et si c'est détruire des villes, tuer des gens et se dire musulman, ça je suis pas musulman effectivement. Vous me direz que c'est pratique et très commode, mais moi je me fiche très bien de ce qu'on peut me dire. Mais je crois que surtout ce qui est important pour nous en fait, en tant qu'être humain, c'est la vie que nous menons en fait, ce sont nos œuvres, c'est ce que nous faisons en bien ou en mal, c'est cela notre identité. Notre identité, elle est pas figée dès le moment de votre naissance, ça serait absurde quoi. Autant ne plus rien faire, autant ne pas naître quoi. Donc nous naissons, nous vivons et c'est de cette vie là que naît notre identité qui peut fluctuer au cours du temps.
Donc c'est aussi un récit pour déconstruire tous ces clichés qu'il y a autour de cette identité.
D'autant plus que ce sont des clichés qui ont mené à des catastrophes. Et c'est en ce sens-là que mon livre n'est pas une théorie, hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. C'est-à-dire que on nous a enseigné ça quand j'étais très très petit, que nous étions des Arabes, que nous étions des Algériens, que nous étions des musulmans. On nous tapait dessus pour nous l'enseigner. Et voyez ce que ça donnait 20 ans après, une guerre civile en fait. Et donc c'est ce que je veux dire. N'essayez pas de fabriquer des gens en fait, des citoyens, en leur inculquant des notions figées. Vous ne créerez que des drames d'une certaine manière. Donc autant laisser les gens libres et explorer des virtualités ou des possibilités de l'être qu'ils ont en eux-mêmes quoi.
Dieu, Allah, moi et les autres, c'est qui les autres?
Les autres, c'est tous ceux que j'aime, mes amis, ça peut être... c'est surtout mes amis, parce que c'est aussi un hommage à un ami que j'ai perdu.
Aussi,
c'est les femmes que j'ai rencontrées, que j'ai aimées.
Nombreuses, dites donc.
Pas si nombreuses que ça.
Et puis, quand même.
À chaque fois, on me dit ça, mais en même temps, je ne parle que de fiasco dans ce livre, donc c'est plutôt drôle. Donc oui, les femmes que j'ai connues, les amis, voilà, enfin les gens que j'aime, voilà.
Juste pour finir, Salim Bachi, on l'a dit au début de cet entretien, vous n'avez pas encore 50 ans. Loin s'en faut. Et ce livre, non, je dis 50 ans parce que c'est un chiffre un peu rond, un peu symbolique. Et ce livre, néanmoins, a quand même parfois des résonances testamentaires. Je me demandais, est-ce que c'était aussi une façon de dire, là, maintenant, tout de suite, le fond de votre pensée, alors peut-être parce que vous avez peur de pas pouvoir le dire plus tard, ou aussi dans un souci de transmission envers, je ne sais pas, vos enfants, votre fils?
C'est possible aussi. Il y a un moment où on se dit il est temps de passer le relais, oui, d'une certaine manière, symboliquement. Oui.
Merci beaucoup, Salim Bachi.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle le titre de ce récit, Dieu, Allah, moi et les autres, paru aux éditions Gallimard.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Nicolas Benita.
Carrefour de l'Europe.